Bonjour à tous. Un nouvel épouvantail médiatique est apparu cette semaine sur les chaînes d'info. Alors, elle se nomme Alice Coffin. C'est une élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Elle est militante LGBT de longue date, ancienne journaliste spécialiste des médias au Gratuit 20 minutes. Et elle vient de publier aux éditions Grasset un livre, Le génie lesbien, dans lequel elle se propose, à en croire ces mêmes plateaux qui en font un épouvantail médiatique, d'éliminer les hommes. Alors, que dit la violence de cette réaction médiatique? Ça fait beaucoup de sujets à discuter avec Alice Coffin, qui sera notre invitée dans cette émission dans quelques minutes. Mais auparavant, avec toi, Loris Guémard, on va revenir sur un des articles, une des enquêtes d'arrêt sur image cette semaine, sur un reportage du Parisien. Et alors, l'histoire commence par un tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, Daniel, l'histoire commence effectivement avec un tweet de Gérald Darmanin qui en fait donne une publicité massive à cet article qui avait été publié quelques heures avant dans Le Parisien, donc le 28 septembre, à 7h, 6h, 7h, l'article est publié. À 9h, Gérald Darmanin le retweet en lui donnant sa propre tonalité politique qui porte évidemment sur le séparatisme. L'article du Parisien, lui, est en fait une immersion débutée en janvier par un des journalistes du service enquête du Parisien qui reste anonyme puisqu'il est protégé par un pseudonyme dans l'article. Il y raconte avoir intégré un club de Savigny-le-Temple. Il ne précise pas que c'est un club qui est par ailleurs très reconnu en matière de jiu-jitsu brésilien et de grappling qui sont les deux sports de prédilection du club. Il y découvre, lors de ses entraînements, des éléments que le Parisien nomme des pratiques troublantes, mais qui semblent toutefois éloignées d'un danger pour la République. On y apprend notamment, et c'est toujours à chaque fois très précisément circonstancié par le journaliste, des jeunes qui peuvent prononcer des insultes ou des propos antisémites, toujours en absence de l'entraîneur qui est celui de l'auteur du Parisien. On y apprend également qu'une adhérente en milieu d'année a été rejetée, qu'une ancienne adhérente du club témoigne que certains des membres ne souhaitent pas combattre avec elle.
Ni avec les femmes en général.
Ni avec les femmes en général. Et il est bien précisé que ce ne sont que quelques membres. Donc, à chaque fois, l'article présente à la fois des pratiques effectivement troublante, mais qui pourrait conduire à s'interroger au fait que ce club soit effectivement surveillé par la DGSI, le renseignement intérieur, qui est le point de départ du Parisien.
D'accord. Alors, ça, c'est l'article du Parisien. Dans les jours suivants, réponse du club.
Alors, le club répond d'abord par l'intermédiaire d'un de ses entraîneurs, qui est aussi son cofondateur, qui est un grand champion de jiu-jitsu brésilien, qui s'exprime sur les réseaux sociaux tout d'abord, puis qui s'exprime sur une petite radio communautaire musulmane. Et enfin, le 5 octobre, dans une vidéo d'une quinzaine de minutes publiée par le site Islamotion, qui se présente comme quelqu'un qui est un amateur et qui, depuis une dizaine d'années, vient faire des vidéos dans ce type de situation où il estime que des institutions, en général, ce sont des institutions, des associations musulmanes, sont injustement stigmatisées par la presse.
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo et qu'on est en train de voir derrière toi, Loris, au moment où tu parles?
La vidéo, en réalité, répond plutôt à Gérald Darmanin qu'à l'article du Parisien, mais on y voit par exemple cette jeune femme combattre avec différents hommes, y compris l'entraîneur du journaliste du Parisien. On la voit déclarer à quel point elle se sent bien dans ce club et qu'elle n'est pas du tout rejetée. Il y a également des gens qui sont ou ont été de confession juive ou qui sont chrétiens, qui expriment qu'ils n'ont aucun problème confessionnel dans ce club. Voilà, une défense très habile et plutôt bien faite aux accusations de séparatisme.
Loris, est-ce que le Parisien a répondu à la réponse du club?
Alors, le Parisien n'a pas répondu à la réponse du club, ni celles qui ont été faites au départ sur les réseaux sociaux, ni à celles qui a été faite en vidéo. Le Parisien a néanmoins, après deux appels de l'entraîneur et champion qui demandaient un droit de réponse, ils ont porté plainte contre lui, selon lui. En tout cas, c'est ce que les policiers lui ont dit quand ils sont venus l'interpeller au petit matin chez lui, parce qu'il avait appelé le Parisien pour savoir comment faire un droit de réponse, ce qui n'a pas réussi aussi à faire.
Et du coup, il a une visite de la police.
Et du coup, il a eu une visite de la police, ce qu'il a évidemment assez peu apprécié, pour avoir demandé ce qui lui semblait à lui normal en tout cas. Le Parisien n'a donc absolument pas répondu et ne m'a pas non plus répondu quand je les ai appelés. Ils ont accepté de me dire qu'effectivement, ils n'avaient pas révélé le nom du journaliste pour le protéger, puisqu'il y a effectivement au moins une photo qui a été sortie sur les réseaux sociaux montrant ce journaliste en disant ne l'invitez plus dans d'autres clubs d'Île-de-France. Voilà. Pour le faire payer. Son nom, ils n'ont pas voulu le donner. Et surtout, le Parisien n'a pas voulu me répondre ensuite. On avait pas mal de questions.
OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Loris. C'est ton enquête est à lire sur le site d'Arrêt sur Image. Merci, Loris.
Merci.
Voilà, et j'enlève mon masque dans un geste auguste à la Donald Trump. Et on se sent quand même beaucoup mieux comme ça. Bonjour, Alice Coffin.
Bonjour.
Alors, merci de répondre à notre invitation. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Alors d'abord, si vous êtes en duplex, c'est que vous êtes en ce moment en septaine.
Absolument, je suis en septaine qui est en train de se terminer.
Une septaine qui se termine. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, la sortie de votre livre, Le génie lesbien, le voilà, a fait beaucoup réagir sur les plateaux des chaînes d'infos. On va commencer par regarder un petit échantillon des réactions.
Alice Coffin. Savez-vous qui est Alice Coffin?
Bon, oui. Ouais. Qui l'ignore?
Préférez ne pas la connaître.
Ne dites pas ça, elle a le droit de s'exprimer.
Et voilà ce qu'elle écrit. Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer.
Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations.
Je ne lis plus de livres des hommes, je ne regarde plus leurs films.
Qu'elle ne regarde plus de films réalisés par des hommes, qu'elle n'écoute plus de musique composée par des hommes.
Elle dit également, les hommes, je ne regarde plus leurs films. Alors ça, c'est formidable.
C'est génial.
Les hommes, je ne regarde plus leurs films, je ne lis plus leurs livres.
Dis donc, il ne va pas lui rester grand-chose quand même.
Mais ce n'est pas un féminisme. C'est-à-dire que, comme le disait monsieur, pour moi, l'égalité ne peut pas être une ode à la haine et au sectarisme.
Elle est élue Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on peut dire des choses pareilles dans votre parti sans conséquences et sans sanctions?
C'est du séparatisme.
On peut le dire comme ça. Moi, ce que
vous
je sais.
Vous comprenez sa position, ses propos.
Je ne partage pas sa position.
On ne peut pas condamner la haine quand sont désignés une communauté, une race, tout ce que vous voulez, et faire comme
là,
si là, c'était
hommes,
pas
c'est
grave.
50% de l'humanité.
C'est 50% de l'humanité. Non, mais...
Vous ne pouvez pas accepter, Rokhaya, en tant qu'intellectuel, un discours de haine généraliste.
C'est pas un discours de haine.
C'est un discours de haine généraliste.
Un discours de rejet, disons. En tout cas, de tourner le dos.
En tout cas, c'est un discours qui consiste à dire, moi, j'estime que mon espace doit être préservé de potentiels discours, de potentiels actes qui sont des actes dominants. C'est un choix qu'elle fait.
Pardon,
une recommandation.
Attendez, on fait tourner la parole. Nicolas et
Rachel. Moi, ça me choque pas.
Cette démarche qui consiste à opposer une population contre une autre, c'est la même chose qu'Éric Zemmour. Je veux dire, Alice Coffin, Éric Zemmour, même combat. On hystérise le débat, on le radicalise et en fait, on n'adresse pas les sujets centraux.
C'est un propos raciste. C'est-à-dire que les hommes, en tant que catégorie...
Sexiste, pas raciste.
Raciste.
Alors, j'ai envie de poser la première question à la journaliste spécialiste des médias que vous étiez avant de vous consacrer à plein temps au militantisme lesbien. Est-ce que vous vous attendiez à ça, en publiant ce livre ?
Je m'attendais pas à ce que le livre soit accepté avec des hurrahs, vive le génie lesbien, c'est formidable. Je m'attendais à ce que ça provoque des discussions assez fortes, des débats. En revanche, je m'attendais pas du tout à ce que ça atteigne ce degré-là, cette violence-là. J'aurais dû, parce que ce qui se passe, c'est un accueil finalement assez historiquement traditionnel de la façon dont on reçoit ou on a reçu de nombreux écrits féministes au cours des dernières décennies. Donc c'est à la fois pas surprenant et à la fois, de toute façon, quand vous le prenez, enfin, la violence, elle est forte hein, quand même, elle est dure, elle est... Du coup, ça, je suis un peu hébétée aussi. Et en même temps, je pense, franchement, moi, j'oscille un peu et je revoyais les extraits que vous proposiez et où j'ai oscillé entre différents. Je commençais par un fou rire, parce que j'ai un fou rire en général quand je regarde l'heure des pros, sans nier la gravité des propos qui peuvent être tenus dans cette émission. Mais quand même, en général, c'est plus ça qui prédomine chez moi. Mais en gros, entre fou rire, consternation et puis quand même révolte. Et puis quand même révolte et colère, parce que c'est très grave que ça puisse atteindre ça. Et c'est très grave aussi, là, puisque vous me demandez plus une réaction en termes de journalisme média, ça révèle encore la façon dont les journalistes ne font pas leur travail, quoi. Ils ne travaillent pas. Enfin, la moindre des choses, c'est quand même d'aller lire un ouvrage si on commence par le désinguer. Je ne demande à personne d'avoir une réaction sur l'ouvrage.
Certains d'entre eux ont lu, hein, comme on a vu dans le montage, certains d'entre eux ont lu. Alors, bon, je rappelle, je vais relire entièrement le principal extrait qui a suscité les réactions. Il arrive assez tôt dans le livre, il est page 39. Il ne suffit pas de nous entraider, nous les femmes, sous-entendu, il faut à notre tour les éliminer, point, les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Alors, évidemment, vous introduisez immédiatement un bémol derrière le mot éliminer, mais enfin, il y a quand même, il suffit de les éliminer. Je veux dire, quand on est journaliste, spécialiste des mots, du maniement des mots, on se doute bien que ça va susciter des réactions des futurs éliminés.
Je sais pas, si vous prenez la phrase, je pense, qui est prise comme ça, je sais pas compter le nombre de signes qu'elle fait, mais elle doit faire en gros 280 signes, elle doit faire un tweet, donc moi, c'est les mêmes, en fait, qui vont dire aussi qu'il faut pas, les réseaux sociaux réduisent tout, on peut pas débattre uniquement sur 280 signes. Moi, j'écris 240 pages, c'est développé, c'est argumenté, ça arrive pas à n'importe quel moment dans le livre, cette phrase-là, et puis c'est suivi d'autres points. Donc, ça s'appelle un livre, en fait. Un livre, si on le construit de manière un peu littéraire, un peu argumentée, ça veut dire qu'on peut s'autoriser de ne pas penser qu'on va en isoler une seule phrase. Ça s'appelle un tweet. Donc, c'est un peu différent, et c'est pour ça que moi, je me permets de douter qu'ils aient vraiment lu, parce que peut-être, puisque manifestement, ouais, ça suscite une panique totale, ils auraient vu que, oh là là, je cite même des ouvrages d'hommes, j'ai même interviewé des hommes dans ce livre dont je trouve les ouvrages brillants, oh là là. C'est volontairement caricatural. Après, c'est plus
Qu'est-ce qui est volontairement caricatural, leur réaction ou votre formulation?
Leur réaction, sachant que, qu'est-ce que je dis en fait? Je suis en train d'exposer le fait qu'on nous vivons dans une société où moi, en gros, en étant écolière, collégienne, étudiante dans le système scolaire français, j'ai lu des livres d'hommes pour des siècles et des siècles. Je pense que j'ai emmagasiné tout ce qu'il faut pour être tranquille dans mon esprit et pour les avoir en tête. Et ce que je dis, c'est que c'est extrêmement difficile de trouver, d'accéder à des propos différents, des idées différentes, et que moi, j'ai besoin, face à l'ampleur de ce que c'est que le système de domination masculine, d'une respiration, que j'essaye de trouver une stratégie, en gros, de survie dans ce monde-là. Je dis à titre personnel, hein, que moi, j'essaye de... Je suis pas en train de dire à tout le monde ce qu'ils ou elles doivent pas lire. Donc, j'ai pas le droit, en fait, je peux pas me permettre de dire ce que moi, sont mes préférences de lecture.
Ah bah, il faut, c'est assez général, il faut, c'est pas je souhaite les éliminer, c'est il faut les éliminer. Hein. Non, mais je veux dire, si on fait du mot à mot.
Ouais, enfin, et la phrase d'après, c'est quoi? C'est « j'essaye du moins ».
Non, mais alors, vous dites « j'ai lu des livres d'hommes », mais ça va même plus loin dans le livre. Hein, plus loin dans le livre, vous avez des phrases assez fortes, y compris sur vous-même. « Je me suis fait tellement rouler par l'art, dites-vous, par les images en général, celles des films, celles des matchs de foot. J'en suis pas sorti. Leur culture masculine a une emprise terrible. Je me surprends à trouver un champ de supporters homophobes entraînant. Je recopiais en extase des passages entiers des valseuses. Ça me faisait rire. C'est drôle et rythmé d'ailleurs, ultra misogyne aussi. J'aime encore me vautrer dans les films français de bandes de mecs imbéciles, où on mesure l'effort que vous avez dû faire sur vous-même, en fait.
Mais non, mais c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'on est habitué, je dis, je suis à la maison presque. Quand je vois des films, ils sont plus immédiatement accessibles. Et c'est pour ça que je pense que le propos, il va même un peu plus loin pour moi que de dire ne lisons pas, privilégions les ouvrages notamment de femmes ou d'hommes, sans doute aussi d'autres. qui ne soient pas blancs, d'autres, enfin, toutes ces personnes qu'on n'entend pas, qu'elles, on a éliminées. Enfin, qu'est-ce qu'on a éliminé, si on veut parler d'élimination, qu'est-ce qu'on a éliminé pendant des siècles? Quelles œuvres on n'a pas lues, quelles voix on n'a pas entendues depuis des siècles et des siècles, parce que réellement, on les empêchait d'accéder à la production d'œuvres littéraires. Et ça, c'est un premier point. Après, un deuxième point, c'est que je pense encore plus fortement que ce qu'on appelle l'art, ce qu'on appelle les œuvres culturelles, ça a été très fortement façonné par des standards masculins. Donc, c'est le lien entre art et standard, et que c'est très fort, c'est-à-dire la façon dont on a appris à juger qu'un livre est bien, dans lequel on se sent à l'aise, parce qu'on arrive à en suivre les codes de récit. C'est très souvent des récits qui sont façonnés par un imaginaire masculin, c'est-à-dire souvent linéaire, avec un héros qui nous emmène d'un point à un autre, qui nous conduit au travers de ses épopées, qui s'en revient chez lui. Et tout ça, du coup, je pense que c'est nuisible aussi à l'art lui-même, à la culture elle-même.
Parce que la linéarité, c'est spécifique à l'imaginaire masculin, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir un imaginaire féminin qui soit linéaire.
C'est un peu différent comme sens, c'est-à-dire parce que ce sont des hommes qui ont façonné justement ce qu'on considérait être les parangons de ce que c'est l'œuvre, ce que c'est le poème, ce que c'est qu'un morceau de musique. Du coup, ça va, c'est plus dans ce sens-là que du coup ça a façonné. Et effectivement, bah oui, les imaginaires masculins sont différents tels qu'ils ont été construits d'autres imaginaires. Ça, c'est les résultats d'un...
Mais y compris dans la construction d'un récit. Non, je rebondissais sur le mot linéaire. Y compris dans la construction d'un récit, vous avez l'impression qu'il y a une façon de raconter une histoire. Je ne parle pas du sujet, hein, je parle de la façon de raconter l'histoire féminine et une façon de raconter l'histoire masculine.
Non, ce n'est pas quelque chose d'essentialisant, mais oui, je pense que la façon dont ont été créés, centrés, enfin, ce n'est pas moi qui le pense, hein, il y a tout un courant de critiques d'art qui a étudié tout ça très bien, ça se fonde effectivement sur un type, si vous voulez, c'est pour ça que je dis le récit, le roman du héros, de l'héroïsation est très centré sur... un personnage qui surmonte des épreuves. Oui, c'est à la genèse d'une certaine littérature occidentale, mais vraiment, je dis rien de très nouveau en disant ça. Donc, c'est pour ça que c'est aussi... C'est pas seulement aller entendre d'autres voix, c'est aussi aller entendre d'autres formes. Et je pense que je m'appuie beaucoup, par exemple... sur le livre, il s'ouvre sur Monique Wittig, qui est une théoricienne lesbienne, mais aussi une écrivaine, justement, qui cherche à inventer aussi d'autres formes. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est nous offrir des respirations, ce qui est bien, pas seulement pour les femmes, pas seulement pour les minorités opprimées, mais pour l'ensemble de l'imaginaire humain. Hein. C'est juste demander qu'on ne reste pas trop formaté par un seul type de récit.
Alors, en même temps, pour revenir sur les réactions suscitées par votre livre, effectivement, je ne sais pas si tous les animateurs des chaînes d'infos qu'on a vus avaient lu le livre. En tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont lu jusqu'à la page 225. Vous donnez un peu une clé de lecture quand même de votre propre livre. Vous dites « j'aime pas utiliser ce vocabulaire guerrier, je le fais ». Alors, je pense que vous parlez de votre propre vocabulaire, hein, on est bien d'accord. « Je le fais pour rendre visible la guerre qu'on nous cache ». Alors, il y a quand même de votre part une stratégie de provocation. Vous cherchez à provoquer, rendre visible, provoquer pour rendre visible. Moi, je l'ai lu comme ça, en tout cas.
Ouais, alors, je pense que c'est pas vraiment provoquer. Moi, ma démarche, hein, dans ce livre, et de manière générale, en tant que militante, en tant que journaliste, en tant que politique, c'est de rendre visibles certaines structures qui sont normalement dissimulées. Donc, c'est un miroir qui est tendu, mais cette violence-là, cette guerre-là, c'est pas moi qui la crée, ce ne sont pas mes écrits qui la créent, elle est là. Enfin, je veux dire, le massacre qui a lieu depuis des siècles contre les femmes, c'est pas moi qui l'ai créé, il est là. En revanche, il y a une volonté de ne pas le dire, de l'étouffer. Et je pense très fortement, en fait, que ce livre-là, il est performatif, si vous voulez, plus qu'une provocation. Il est là parce qu'il faut, à un moment, l'édicter, le mettre noir sur blanc, ce qui se passe. Et ça, c'est jugé comme une provocation. Mais ça, et ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est vraiment une illustration. C'est-à-dire que dès qu'on, juste qu'on commence à vouloir le dire, même ça, on n'est pas autorisé à le faire. Il y a quelque chose sur les mots. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe en ce moment autour du mouvement, par exemple, des colleuses. Qu'est-ce qu'elles font ? elles écrivent des mots en toutes lettres, en énormes lettres sur les murs, pour pas qu'on puisse y échapper à cette réalité-là. Et je pense que ça, c'est une étape, en tout cas, c'est celle qui m'intéresse, absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'y est même pas. On n'y est même pas à avoir le droit d'énoncer cette réalité-là. Et je comprends qu'elle soit horrible à entendre.
Alors, c'est pas la première fois que vous l'énoncez, cette réalité-là. Vous avez déjà fait fortement réagir, c'était il y a quelques mois, c'était au cours de l'été dernier. Alors, on va revenir sur tout l'épisode Christophe Girard, l'adjoint à la maire de Paris, mais à ce moment-là, c'est-à-dire il y a quelques mois, était ressortie une intervention de vous, ancienne d'il y a deux ans, de 2018, qui était ressortie sur les réseaux sociaux. On l'écoute.
J'aimerais qu'on revienne aussi par ailleurs sur toute cette question, puisque vous l'avez pointé, de la référence paternelle. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça deux minutes? Parce que pourquoi, moi aussi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il faut absolument les pères, une référence paternelle. Vous voulez faire sortir un peu des études sur le rôle des pères dans la société, dans le monde entier? Moi j'attends, hein, parce que personnellement, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi. Il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères. C'est un petit peu dramatique.
Voilà, et alors là aussi, réaction immédiate, effarouchée, comment ça, elle accuse tous les hommes, tous les pères de battre leurs femmes ou de tuer leurs enfants. C'est ce que vous vouliez vraiment dire ?
Moi, j'assume, quand j'ai vu cet été la vidéo là, sortir, bon, avec un passage tronqué, mais j'assume complètement ce qui est dit dans ce passage-là, pour resituer en fait qu'est-ce qui se passe. On est dans un débat autour de la Manif pour tous aussi, qui se réactive à ce moment-là, ou tente en 2018, et on m'explique que l'argument, en gros, c'est de dire, même chez les plus, on va dire, sympathiques envers les couples de lesbiennes qui auraient des enfants, c'est quand même de dire, oui, enfin, vous pouvez pas nier que quand même, c'est toujours mieux, même, on peut pas toujours faire, on vous laisse, mais quand même, c'est toujours mieux s'il y a un papa, s'il y a un père. Donc, moi, ma réponse, c'est, bah non. On ne peut pas sacraliser la figure du père parce qu'au contraire, je pense que la figure du père, la figure de l'époux, a aussi été érigée, créée pour autoriser une certaine violence dans les foyers, dans la sphère domestique. Et là, ce n'est vraiment pas moi qui le dis. Je recommande à tout le monde d'écouter un travail admirable de Charlotte Pudlowski qui est diffusé en ce moment sur Louis Média autour de l'inceste, qui s'appelle « Ou peut-être une nuit », et où en 6 épisodes décortique très fortement comment, effectivement, ce sont les figures des hommes dans les foyers qui commettent toutes ces violences-là ont des chiffres terribles et je pense que ça, en fait, on n'a même pas commencé à l'aborder.
Les chiffres, c'est quoi puisque dans l'extrait qu'on vient d'entendre, vous parlez de chiffres, mais vous ne les donnez pas. Les chiffres, c'est quoi?
Les chiffres que donne justement en fait, Charlotte Pudlowski dans ce podcast-là, c'est que quand il y a des violences d'inceste par les proches, les pères ou autres, c'est à 98% des hommes qui les commettent. Donc voilà.
D'accord. Mais les chiffres en valeur absolue. Non, mais je vous pose la question parce que les chiffres en valeur absolue sont aussi importants. Vous les donnez pas dans l'extrait, mais vous les donnez dans le livre. Vous dites environ 87 000 femmes dans le monde ont été intentionnellement tuées en 2017, dont plus de la moitié par leur conjoint ou des membres de leur famille. Voilà, pour redonner un ordre de grandeur, évidemment 87 000 femmes, c'est énorme, c'est trop, c'est épouvantable, ça représente une femme sur 100 000.
Représente 37 femmes par jour dans le monde. Alors, je sais pas à partir de quoi, donc on dit rien.
C'est votre chiffre, hein, c'est votre chiffre.
Non, mais tout à fait. Non, ça représente 137 femmes par jour.
Et donc, alors, si on le rapporte... C'est monstrueux, mais si on le rapporte au total... Si on le rapporte au total de la population féminine mondiale, ça fait une femme sur 100 000. C'est énorme, c'est trop, c'est beaucoup. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut passer de là à une formulation généralisante en disant, en échappant au mariage, on échappe au risque d'être tué par son mari?
Encore une fois, quand je dis ça, je réponds à la sacralisation de la figure du père et de l'époux. Après, pour le reste, moi je pense, et on commence seulement à oser parler de massacre, justement, de guerre qui est menée contre les femmes, de volonté, justement, si on doit reprendre le mot élimination, c'est là qu'il convient de l'utiliser. Et ça... Je crois qu'il n'y a même pas de lucidité là-dessus. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on vit tous les jours dans ce monde-là. Moi, je suis née dans ce monde-là. Je dois affronter ce monde-là. Et qu'il y a un refus d'ouvrir les yeux, en fait, sur ce qui se passe. Je pense
Vous étiez dans ce monde-là. En même temps, j'ai lu quelques articles sur vous, si vous voulez. Enfin, excusez-moi, vous êtes né aussi dans une famille de parents aimants qui, encore ces tout derniers jours, vous soutiennent dans votre combat. Ce monde-là n'est pas une fatalité. Enfin, je veux dire, comment dire les choses?
Bah, oui, mais là, je vous tiens un discours politique. Enfin,
oui.
C'est ça le truc avec le féminisme, c'est-à-dire c'est toujours nous renvoyer à des situations affectives, émotionnelles. Oui, j'adore mon papa, je l'embrasse, quoi. Mais c'est vraiment pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Pourquoi est-ce que, vous voyez, si j'étais une chercheuse dans d'autres domaines, ouais. Un chercheur plutôt même, en termes historiques, sociologiques, vous ne me ramèneriez pas à ma situation. Enfin, je veux dire, je suis en train de vous donner un discours politique.
Non, bien sûr. Enfin, c'est vos parents eux-mêmes qui se sont exprimés, qui ont exprimé publiquement leur soutien, ce qui m'autorise à en faire état.
Oui, absolument. Mais ça, je le dis dans le livre, par ailleurs, parce que c'est intéressant, parce qu'après l'extrait de RT, le truc qu'on m'a, ou d'autres, hein, où je tiens ce type de propos, la première chose qu'on me dit, c'est celle-là, elle a vraiment dû se faire tabasser par son père. Celle-là, elle a dû avoir des sales rapports avec son père, qui est l'exact, en fait, c'est l'inverse exact de des relations que j'ai. Que j'ai moi avec mon père, mais c'est ce qui est très intéressant, c'est pas ça, c'est pas ma situation personnelle. C'est pourquoi est-ce qu'on renvoie à du perso, justement, un de l'individuel. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas, et c'est la même chose quand on me refuse de dire les hommes, pourquoi est-ce que tous les discours sont fondés sur le discours généralisant
On vous renvoie à du perso parce qu'il faut bien qu'une cause s'incarne, et là je reparle à ma consoeur spécialiste des médias. Je veux dire, si on regarde l'illustration que vous avez choisie pour votre couverture, vous avez aussi choisi un peu le perso. Je veux dire, vous n'étiez pas obligé de mettre une jolie photo de vous plein cadre.
Mais par ailleurs, ça c'est le livre, c'est-à-dire le livre, il est de toute façon très, très intime. Vous savez que une des formules les plus fortes du féminisme, c'est le privé et politique. Donc effectivement, moi j'estime que le récit individuel peut être pris comme politique, c'est vrai, mais sans jamais oublier la politique, je veux dire, c'est au service d'eux, quoi.
D'accord. Alors, pourquoi elle est ressortie, cette vidéo qu'on vient de voir, là, la vidéo de RT? Elle est ressortie au cœur de ce qu'on peut appeler l'affaire Christophe Girard, au cœur de l'été. Alors, je vais essayer de résumer, sous votre contrôle, Alice Coffin, cette affaire Christophe Girard. Alors, ça démarre au début de cette année avec le livre événement d'une éditrice qui s'appelle Vanessa Springora. Le livre s'appelle « Le consentement ». Le livre dévoile que jeune fille Vanessa Springora a été victime d'abus sexuels de la part de l'écrivain Gabriel Matzneff. Vanessa Springora est invitée sur de multiples plateaux de télé pour raconter son livre. Alors, ce livre provoque vraiment une sorte de choc, en tout cas dans les milieux journalistiques et intellectuels parisiens, du fait que Matzneff a très longtemps été protégé, pendant des décennies et des décennies. Matzneff, qui ne cachait rien de ses pratiques pédocriminelles dans ses livres, a très longtemps été protégé par un certain nombre de journalistes, et d'intellectuel, début de l'histoire. Le 11 février, le New York Times, un journal étranger, révèle que Christophe Girard, donc adjoint à la culture de la maire de Paris, a réglé des factures d'hôtel pour Matzneff de la part du groupe Yves Saint-Laurent, dont il était un cadre dirigeant, et que Christophe Girard est aussi intervenu pour que le Centre national du livre verse une espèce d'allocation annuelle à Matzneff. Alors, là, ça, c'est au début de l'année. Hein. Là-dessus, élection municipale, Anne Hidalgo est réélue. Vous êtes élu vous-même au Conseil de Paris, oui. Hidalgo renomme Christophe Girard, adjoint à la culture, alors que pendant la campagne électorale, vous lui aviez demandé de ne pas le faire, c'est ça?
Oui, dès le mois de février, en fait. Dès que l'article du New York Times est paru. Je l'ai croisée quelques jours plus tard sur un marché, parce que j'ai beaucoup entendu elle attend d'être élue pour dire quelque chose. Non, ça c'est des mois en fait qu'on a demandé en privé, moi en face à face même avec Anne Hidalgo, et en lui disant si jamais ça devait se produire, la réaction sera très forte.
Si jamais vous deviez le renouveler comme adjoint à la culture.
Je pensais même pas qu'ils allaient le nommer adjoint. Moi, j'espérais même qu'ils allaient le virer de leur liste, en fait. C'est ça que je voulais, quoi. Et ce que je trouve sidérant, enfin, quand j'ai appris qu'ils l'avaient nommé adjoint, mais là, c'était... Je peux jamais être surpris en matière féministe, quoi. Ça va toujours plus loin que le pire qu'on peut imaginer.
Quand vous avertissiez comme ça à Anne Hidalgo, elle vous répondait quelque chose? Non, pendant la campagne
elle a entendu, elle était en face de moi, avec certains de ses adjoints, elle a tout à fait entendu ce que je lui disais, mais no comment, quoi.
Elle vous répondait rien.
Non, sur le fond, non.
Sur le fond. Bon, alors, toujours est-il que le 23 juillet, donc, avec des militantes féministes, vous organisez une petite manifestation, rassemblement sur la place du parvis de l'hôtel de ville de Paris.
J'assiste, c'est pas moi qui organise, mais je m'y rends, ouais.
Enfin, vous y êtes avec votre écharpe d'élu municipal, l'écharpe bleue et rouge, on vient de la voir là sur l'image, derrière une banderole, mairie de Paris, bienvenue à Pédolande. C'est pas gentil.
C'est quoi, c'est la banderole qui est pas gentille?
Oui.
C'est ce qui se passe. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil.
On reste dans le même registre, c'est provocateur.
Oui, c'est une banderole de manif, quoi. Donc, sur laquelle il a été beaucoup focalisé après, mais qui n'était pas là au début de la manif.
Ah bon?
Sur laquelle il n'est pas du tout question à l'arrivée au dernier quart de la manif. Et je pense que, pour revenir à une discussion précédente, c'est extrêmement important. On n'entend pas les militants, les militantes qui se battent contre les violences pédocriminelles. S'il y a encore un secret, vraiment une chape de plomb sur quelque chose dans ce pays, c'est vraiment là-dessus. MeToo a permis de faire exploser certaines choses, mais alors les violences pédocriminelles, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que le moindre des choses, c'est d'écouter, quelle que soit la façon dont militants choisissent de le revendiquer, de respecter leur combat face quand même à une situation absolument effroyable à ce niveau-là dans ce pays.
Alors, démission de Christophe Girard, je ne sais plus si c'est le jour de cette manifestation ou le lendemain.
Ouais, c'est l'après-midi, je crois.
C'est l'après-midi de cette manifestation. Et sur le moment, vous dites quoi? Vous vous dites, ben voilà, on a gagné grâce à la manif?
On n'a jamais gagné en féminisme, donc je ne me dis pas on a gagné, je me dis on a gagné ça, oui, et c'était important, et de toute façon, ça, je me dis que ça a été plus vite, en fait, que ce que je pensais. On allait continuer, mais je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps, en fait, que j'étais à peu près... Enfin, on n'allait pas lâcher, quoi, donc je pensais que ça allait arriver, mais pas aussi vite. Donc, voilà... donc ça, c'est l'après-midi.
Alors, quand je dis démission, attention, démission de ses fonctions d'adjoint à la culture de la maire de Paris. Il ne démissionne pas de son mandat de conseiller municipal.
Il ne l'a toujours pas fait.
Et il ne l'a toujours pas fait. Voilà. Et alors, le lendemain, conseil de Paris. Alors, il se passe quelque chose qui est, j'imagine, totalement inattendu pour vous.
Bah oui, voilà, c'est quand je disais qu'il faut s'attendre à tout. Le pire est toujours à venir en matière de sexisme. Non, mais là, c'est ouais, complètement inattendu, d'où ma réaction.
Alors, on regarde, attention, il faut regarder, il faut surtout bien écouter.
Je voudrais sur tout autre chose, hein, avec votre autorisation, on peut parler d'autre chose, adresser juste un salut républicain à M. Christophe Girard, qui m'a donné hier, une grande leçon de dignité, et je veux saluer l'homme. Je ne parle pas aux politiques, je ne suis pas là pour ça.
Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour cette manifestation de soutien républicain. Comme vous, je suis attachée au respect des personnes, au respect du droit, au respect des institutions. Et bien sûr, j'ai une amitié, au-delà de tout ce respect, pour Christophe Girard, que je veux encore renouveler ici.
Alors, si on n'a pas bien compris ce qu'on vient de voir, c'est le préfet de police qui assiste en qualité de préfet de police au Conseil de Paris, donc Didier Lallemand, bien connu depuis les manifestations des Gilets jaunes, qui effectivement impulse cette standing ovation à Christophe Girard qui vient de démissionner avec l'assentiment total d'Anne Hidalgo. C'est l'impression que donne l'image.
Mais ouais, mais qu'est-ce qui... Enfin, tout ça, c'est des illustrations d'une mini-scène de ce qui se passe... tout le temps dans nos sociétés patriarcales. Quand il y a tout ça, qu'est-ce qui se passe? Les radios, France Inter et Europe 1 vont inviter le matin qui? Nous ou Christophe Girard? Christophe Girard, pas les militantes féministes à venir s'exprimer. Et le reste des tenants du pouvoir, là, pas médiatique mais politique, va se ranger de quel côté? Nous ou Christophe Girard? Christophe Girard, homme de pouvoir. C'est terrible en fait, mais c'est ce qui se passe sans arrêt, tout le temps. C'est-à-dire que les personnes qui lancent des alertes, les personnes qui sont du côté militant, des opprimés, ne sont pas écoutées, ne sont pas soutenues. Et alors là, enfin bon, la standing ovation, on est à un niveau vraiment extrêmement emblématique, parce que là, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se lèvent pour applaudir dans quelque chose d'initié par le préfet et pas n'importe lequel, le préfet allemand. C'est particulièrement violent, mais c'est particulièrement éloquent aussi. C'est-à-dire que réellement, je crois que ce qui se passe, c'est des rapports de pouvoir, hein, tout ça. Et puisque on est au lendemain de la démission, c'est une manière de nous rappeler et de nous dire « Ah, vous avez voulu faire les petites malines, vous avez voulu essayer de dégommer un des nôtres, eh bien regardez, on est solidaires, on applaudit, on se lève et nous, on va vous enfoncer ». C'est ça qui se passe, c'est vraiment du rapport de force, c'est la même chose qui s'était passée pendant... c'est pour ça que je pense que j'ai ces mots-là qui sont hyper spontanés, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça, moi j'étais complètement...
Et ce qui est intéressant, c'est que vous criez la honte, c'est-à-dire vous criez exactement la même chose que ce que Adèle Haenel avait crié à la soirée des Césars quand Polanski a reçu son César.
Parce que c'est exactement le même mécanisme, c'est-à-dire que non seulement il se passe tout ça, on se dit... Non seulement ils l'ont nommé 12 fois Polanski, on se dit bon voilà, ça va, on a compris. Non, il faut qu'ils en rajoutent une couche. Il faut qu'ils aillent lui donner le César et il faut que certains applaudissent dans la salle. C'est les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que c'est la même chose qui est en train de se passer ces derniers jours. C'est-à-dire que le patriarcat a besoin d'affirmer, réaffirmer, réaffirmer que c'est lui qui domine, que c'est eux les boss et que en fait. On essaye de nous étouffer, de nous faire taire. C'est réellement ça qui se passe, parce que la façon de faire taire des gens, il y en a plusieurs. L'une d'entre elles, c'est la liesse, hein, c'est-à-dire c'est la foule compacte qui applaudit en creux désigne les méchantes, les vilaines, les sorcières qui viennent essayer de contrebalancer ce système-là.
Alors là, on était au Conseil de Paris, on était le 24 juillet. Ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire. Parce que le 27 juillet, on apprend dans Mediapart que, contrairement à ce qu'il avait dit en prétendant ne pas connaître Matzneff, en fait, Christophe Girard l'avait invité plusieurs fois à déjeuner sur note de frais de la mairie. Et surtout, le 16 août, le New York Times, encore lui, encore un journal étranger, révèle que le même Christophe Girard est accusé de viol par un jeune Tunisien qui l'employait à son service. Ce qui, du coup, amène à se poser une question. S'il démissionne le 23 juillet, il démissionne du fait de votre manif, ou il démissionne et Hidalgo accepte sa démission parce qu'elle sait que vont sortir les repas et la plainte du jeune Tunisien.
Oui, ben ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas hein, dans tout ce qui s'est passé, y compris sur l'attitude d'Anne Hidalgo depuis le début. Je ne sais pas. En tout cas.
Depuis le début, vous en avez parlé en tête à tête avec elle ?
Non, je lui ai envoyé une dédicace avec mon livre, parce que justement, en plus, je parle d'elle dans le livre, mais c'est non, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Mais de manière générale, je n'ai pas beaucoup reçu de messages et tout, de soutien de différents...
Alors, non, mais vous avez reçu des messages factuels, c'est-à-dire qu'avec une autre élue EELV au Conseil de Paris, Raphaël Rémy-Leleu, vous avez été exclu de fonctions qu'on vous avait demandé d'assumer. Vous pouvez détailler ?
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que nos mandats de conseillère de Paris... nous autorise normalement, nous invite à siéger dans un certain nombre d'institutions. Donc, par exemple, moi, vu mes anciennes fonctions, je voulais siéger à la commission des kiosquiers, par exemple, ou à l'institution Paris Musée, ou à la Maison des Métallos. La réaction intéressante a été immédiatement de dire elles sont exclues et de passer en fait à des coups de typex, de blanco sur nos noms après nos protestations et notre action contre Christophe Girard.
Donc, au sens propre.
Oui, au sens propre. Ah non, mais c'est pas une blague, ils ont fait des tipex. Mais de même qu'ils ont interrompu, que la diffusion a été interrompue du Conseil de Paris au moment où je m'exclame, ce qui là aussi pose des questions en termes démocratiques. Bon, tout ça.
En même temps, il y a une incohérence dans l'attitude d'Anne Hidalgo que tout le monde a bien noté. Je veux dire, elle accepte la démission de Christophe Girard, et en même temps, elle vous punit, vous. Enfin,
oui, et elle nous avait dit dès le départ, dès le premier après-midi, elle avait dit qu'elles sont exclues de la majorité, mais bon, on a été réintégrés, donc voilà.
Il y a quelques jours, là, c'est très récent.
Ouais. Oui, mais parce qu'on n'a pas... Enfin, de toute façon, je pense qu'à un moment, c'est une manière de faire de la politique qui est quand même très... qui est quand même très particulière, quoi, qui est quand même... on a des territoires, comme si on avait des fiefs, quoi. Et donc, ah bah toi, tu ne pourras pas aller siéger parce que c'est moi qui décide, et donc je t'interdis d'aller à tel endroit, et je t'exclus. Qui, pour moi, en fait, ça ne m'a pas tellement atteinte, parce que je ne comprends pas, en fait, ce genre de conception de la façon dont ça se passe la politique. Moi, et c'est ça qui est, en revanche, très appréciable. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, je n'ai pas tellement de compte à rendre à d'autres gens qu'à un électorat, quoi. Donc on peut m'exclure d'une majorité d'organismes, je suis toujours là, quoi. Donc,
en même temps, Alice Coffin, Anne Hidalgo est une femme.
Oui, bah, c'est pour ça que justement, quand je l'ai mis sur la dédicace, c'est que moi je suis très très embêtée par rapport, mais non pas seulement par rapport à Anne Hidalgo, par rapport à beaucoup d'autres propos qui ont été tenus ces dernières semaines pour m'attaquer moi ou m'attaquer ce qu'on nomme les nouvelles générations de féministes. Parce que j'ai pour principe et pour stratégie, là encore un peu de survie, de ne pas m'attaquer à une femme en responsabilité publique, parce que j'estime qu'il y aura toujours d'autres gens que moi pour le faire. Et qu'en général, quand je le fais, et quand je l'ai fait, je l'ai expérimenté auparavant, notamment une fois en critiquant Anne Hidalgo sur Twitter, je me suis aperçue que ça générait des déferlements de sexistes. C'est-à-dire que quand je dis la même chose, le même type de reproche à un homme, ça ne provoque pas du tout le même enthousiasme ou le même assentiment, alors que quand je critique une femme, c'est terrible, une femme de pouvoir, immédiatement. Et donc moi, je ne veux pas
être ce véhicule-là. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe quand vous critiquez une femme de pouvoir ?
En fait, très concrètement, c'est mon job de faire ça, que je faisais avec le collectif La Barbe, j'ai l'habitude de pointer les organismes, les réunions dans lesquelles, de pouvoir, dans lesquelles il y a 90, 95, 100% d'hommes autour de la table. Et je le fais régulièrement sur Twitter, et en général, ce sont des hommes qui postent ces photos de là. Et en tout cas, quand je le fais, bon, voilà, ça c'est un peu remarqué, mais comme ça. Et une fois, il se trouve que je l'ai fait au sujet d'Anne Hidalgo, qui tenait une réunion à l'hôtel de ville avec des associations LGBT, où il n'y avait que des hommes autour d'elle sur la photo.
Voilà, et on voit d'ailleurs le à la fois la photo et le tweet que vous aviez... que vous aviez envoyé à l'époque. Alors voilà, c'est une réunion de responsables associatifs LGBT, et effectivement, à part Anne Hidalgo, il n'y a que des hommes autour de la table.
Oui, ouais. Donc ça, c'est un des cœurs de l'ouvrage chez Baba et les lesbiennes, invisibilisation. C'est courant. Mais ça, je l'ai fait remarquer plein de fois. Et jamais, je vous assure, jamais, j'avais eu autant de retweets et d'assentiments qu'avec ce tweet-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, pour une fois, ce n'était pas un homme, c'est une femme que j'avais pointée, je l'ai nommée, c'est une femme de pouvoir. Et alors là, immédiatement, j'ai ouvert la porte au déferlement qui est d'ordre sexiste. Donc pour moi, il n'est pas question en fait, de participer à ça, ce qui me met souvent dans des positions un peu compliquées.
Parce que, c'est super compliqué, parce qu'en même temps, c'est super compliqué. Ce tweet, si vous ne l'aviez pas fait, personne d'autre ne l'aurait fait. Donc, et en même temps, cette photo est hallucinante. Et si vous ne l'aviez pas pointé, personne ne l'aurait pointé.
Peut-être là-dessus, mais en fait, de manière générale, quand c'est les femmes, je vous jure qu'en général, il y a plein d'autres gens pour les critiquer que moi. Alors que très souvent, effectivement, c'est pour les hommes de pouvoir, ils sont moins attaqués, on ose moins y aller. Donc, en général, je trouve que c'est extrêmement important que je le fasse moi. Mais c'est vrai quand c'est une femme, ou d'ailleurs pas seulement des femmes, mais d'autres minorités aussi, elles sont plus facilement attaquées. Donc, moi, j'estime que ce n'est pas mon rôle d'en rajouter là-dedans. Et que de toute façon, je ne desserre pas le débat public au sens où ces questions-là sont déjà... visible de toute façon. Récemment, j'avoue que c'est pas très facile à tenir comme principe. Et je m'autorise quand même à répondre. Parce que là, moi, j'ai estimé que c'était quand même la maire de Paris qui m'attaquait un peu. Mais vous voyez, la première fois que je sors sur l'affaire Girard publiquement sur Twitter, je ne la nomme pas. Et je dis la mairie de Paris même. Et c'est vraiment, moi souvent je fais des contorsions pour ça, mais je pense qu'elles sont très importantes pour ne pas avoir à dire le nom. Par exemple, là, si je devais dire, il y a, je dirais, il y a certaines ministres qui m'ont reproché, on les a vus dans votre extrait, que Alice Coffin et Zemmour, même combat. Mais j'aurais du mal à aller pointer la personne exactement qui l'a fait. Et pour certains propos, je vous jure que je serais extrêmement plus véhémente, effectivement, s'il venait d'hommes. Mais c'est un principe. Je dis pas qu'il est, et je dis pas que je le garderai pour toujours, quoi. Hein. C'est comme les histoires de pas lire les hommes. C'est vraiment des stratégies de survie en milieu patriarcal.
De survie.
Ouais. De survie psychique. Ouais.
De survie psychique. Ouais. Et quand vous dites en milieu patriarcal, ça concerne aussi bien, si je vous comprends bien, la communauté LGBT, que le monde extérieur, si j'ose
dire. Oui. Bah, c'est la force du patriarcat, c'est que ça infuse vraiment dans absolument tous les domaines, évidemment LGBT compris. Mais et moi compris. C'est ça que je comprends pas comment les gens s'énervent. C'est-à-dire que moi.
C'est-à-dire en quoi vous êtes intoxiqué par la mentalité patriarcale, vous ? Expliquez-moi.
Mais moi, bien sûr que oui. C'est-à-dire que j'ai tout le temps des réflexes sexistes. Et que si moi, je suis capable de le reconnaître, alors que ça fait des années que tous les jours, je m'occupe de féministes, je suis vigilante aux féministes, et si je vois encore que ça me traverse, que j'ai des réactions qui ne vont pas être tout à fait les mêmes pour les femmes ou pour les hommes, c'est bien que ce milieu-là, et ce n'est pas de la faute des individus, je ne suis pas en train de dire toi, c'est mal, même si je le pense pour certains, mais je le dis de manière générale, ça nous infuse tous et toutes.
C'est quand la dernière fois que vous avez eu un réflexe sexiste ? Alors, mis à part le fait de regarder en boucle les valseuses, hein, ça, c'est, on en a parlé au début de l'émission.
Non, mais ça, je vous parle vraiment d'attitude que j'aurais sur des femmes politiques ou autres, où je vais me dire, ah tiens, elle a telle attitude sur ce qu'elle peut faire, notamment. Je crois que ça a souvent à voir avec la façon dont on aime beaucoup ressortir pour des femmes politiques qu'elles se comporteraient de manière affreuse avec leur cabinet, qu'elles seraient très autoritaires. Ça, c'est quand même des choses qui me touchent par ailleurs, hein, la façon dont on peut se comporter avec ses proches, y compris ses collaborateurs, collaboratrices. Et très souvent, je me dis, ah non, mais attention, est-ce qu'on sort ça sur les hommes ? Est-ce qu'on dirait la même chose ? Est-ce que ça se passerait ainsi ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux redécortiquer ? Et donc lutter contre ce premier réflexe-là pour toujours le renvoyer à un panorama plus général.
Alors, on a bien compris, et d'ailleurs c'est le thème central de votre livre, que je veux dire, peut-être que votre lutte principale est une lutte contre l'invisibilité, contre l'invisibilisation alors, des lesbiennes évidemment, mais aussi des gays d'une manière plus générale. Et vous pointez dans le livre, et c'est à mon avis une des choses très intéressantes de ce livre, vous pointez le fait dont cette invisibilisation se produit dans le spectacle médiatique mainstream tel qu'il nous est montré chaque soir. Alors, il y a un exemple particulièrement frappant dans le livre, qui est un exemple très récent. C'est l'interview du chanteur Eddie Depreto par Laurent Delahousse dans un journal de 20 heures. On regarde.
Vous dites, chez moi, je dansais sur les Spice Girls, mais une fois dans la rue, je brûlais des poubelles. Ça veut dire que la vie dans les quartiers interdit de finalement afficher ses sensibilités. Un homme doit être comme ça, avec le dos, le torse bombé.
En tout cas, moi, c'est comme ça
que vous avez ressenti.
Ouais, exactement, c'est comme ça que je le vivais. C'est que j'avais l'impression que je pouvais en aucun cas montrer mes failles, mes pleurs, mes doutes, et même mes jeux qu'on dit code féminin. Mes jeux code féminin, par exemple, les poupées, Space Girls, c'est vu pour les filles. Et du coup, je ne pouvais rien raconter. Tout ça, en effet, en bas de chez moi.
Il y en a beaucoup, comme vous, qui souffrent justement de ne pas pouvoir être libres de leurs sentiments, de leur façon d'être.
Sûrement, mais je pense que c'est ça, c'est l'éducation, la façon de se découvrir, se construire, justement.
Qu'est-ce qui se passe, selon vous, dans la tête de Delahousse pendant cette seconde de silence où il pourrait dire « homosexualité » et finalement, il dit « sentiment ». Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?
Ce qui se passe dans la tête de beaucoup de journalistes qui estiment que c'est un mot, c'est un gros mot, c'est un mot indicible. Qui commettrait une faute, je pense, presque journalistique, à prononcer ce mot-là.
Mais Depreto en parle lui-même. Depreto en parle lui-même.
Exactement. Non, mais c'est pour ça que c'est aberrant. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. C'est-à-dire, ça pourrait être juste amusant, on pourrait dire, mais le problème, c'est que ça a des conséquences importantes. Les journalistes ont, du coup, une assez lourde responsabilité dans l'invisibilisation d'une partie de la population. Il n'est pas du tout le seul à le faire. Et c'est vrai que je m'amuse dans le livre à recenser tout un nombre d'exemples de portraits où on use de périphrases pour ne surtout pas dire qu'un homme est gay, par exemple, en disant que c'était un amateur de Proust ou un célibataire endurci, ou, pour citer un article du Figaro sur Charles Trenet, que la seule femme qu'il a aimée fut sa mère. Enfin bon, il y a beaucoup de termes qui renvoient à ce que j'appelle la placardologie.
Non, mais attendez, le Figaro et Charles Trenet, c'est vieux, mais franchement, Delahousse et Depreto, c'est aujourd'hui, quoi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça n'a pas bougé du tout. Et pourtant, on a l'impression quand même que le combat LGBT est beaucoup plus visible aujourd'hui.
Mais, Mais pas tant que ça, parce que encore aujourd'hui, je cite aussi un article dans lequel on ne comprend rien de l'Express qui veut nous parler à un moment des rumeurs qu'il y avait pendant la campagne sur une prétendue homosexualité d'Emmanuel Macron. Sauf qu'à aucun moment dans leur article, ils ne sont capables de dire le mot homosexualité. Du coup, on ne comprend rien. On dit dans les dîners en ville, il y a cette rumeur qui circule, Sarkozy aurait dit. Mais pourquoi ne pas dire le mot gay, homo, enfin ce qu'ils veulent. Et non, et ben, c'est encore considéré comme un mot tabou, c'est encore considéré comme un mot relevant uniquement de la sphère privée, même quand il s'agit de personnalité publique. Et je pense que beaucoup, beaucoup de journalistes sont extrêmement mal à l'aise avec le sujet.
Quand vous étiez journaliste média à 20 minutes, vous vous êtes heurté à ce type de barrière ?
Non, mais terrible. C'était extrêmement compliqué. C'est ce qui, moi, m'a amené aussi à vouloir initier l'association des journalistes LGBT, tellement je constatais dans ma propre rédaction à 20 minutes, mais c'est pareil ailleurs, hein, c'est juste que moi j'étais à 20 minutes pendant plusieurs années, donc j'ai pu l'expérimenter, à quel point il y avait un malaise, comme si j'allais offenser en fait les personnalités. Je me souviens par exemple qu'on m'a caviardé une question à Olivier Mine où je lui demandais, je lui posais une question sur son coming out parce qu'il avait récemment dit qu'il était bi, qu'il était moué et hétéro, et qui était une question tout à fait légitime. Hein. C'était lui qui en avait parlé, je vois pourquoi on ne pourrait pas en parler. Et sans arrêt, en fait, on m'interdisait effectivement d'évoquer ce sujet-là, ou y compris d'en parler, parce que tout ce qu'on est en train de décrypter là, c'est un super sujet média, de dire pourquoi est-ce que les journalistes, ils ont du mal à dire ça. Et moi, j'avais proposé ce sujet-là en conférence de rédaction, en disant est-ce qu'on pourrait travailler sur le fait que les journalistes ont du mal à parler de tout ça, du coming out des personnalités ou de leur non-coming out. Et ça m'avait été interdit, c'était vu comme militant, comme, alors certainement aussi du fait de ma personne, mais je pense que pas seulement, il y avait vraiment un énorme un malaise quoi, sur ces questions-là.
Du fait de votre personne, c'est-à-dire que vous aviez déjà des activités militantes à l'époque, en même temps que votre carrière de journaliste, c'est ça, votre travail de journaliste.
J'étais à la barbe, ouais.
Ah, vous étiez au mouvement à la barbe, ouais.
Et puis j'étais engagée dans les manifs aussi sur le mariage pour tous, ouais. Donc ça, c'est pour ça que je dis, je pense que ça aurait été vrai de toute façon, ça aurait été compliqué, mais ça a ajouté du fait que ça, les propositions viennent de moi, puisque moi, en tant que, justement, complètement ouvertement lesbienne, ouvertement féministe, dans cette rédaction de 20 minutes, j'étais perçue comme une personne ne pouvant bien faire son travail de journaliste, et en tout cas certainement pas lorsqu'elle s'occupait de sujets féministes ou ayant trait à ce qu'eux appelaient l'homosexualité, puisqu'on m'interdisait en fait, hein, complètement de parler de ces sujets-là.
En même temps, c'est une vraie question. Est-ce que vous estimez, par exemple, que, alors vous étiez journaliste média, d'accord, mais est-ce que vous estimez qu'en tant que militante LGBT lesbienne revendiquée, vous auriez pu, à l'époque, traiter, par exemple, la question de la PMA d'une manière crédible ?
Je crois même que je l'aurais beaucoup mieux fait que celles et ceux, celles et ceux qui ont, l'ont parfois fait. Je pense que, justement... être militante, moi, je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être journaliste. Je pense que ça vous fournit... Et j'en veux pour preuve qu'en fait, on me disait à moi de ne pas le faire. Mais en revanche, il y avait un défilé de mes collègues, que j'aimais beaucoup par ailleurs, hein, devant mon ordinateur pour dire « Alice, tu n'aurais pas tel contact. Alice, tu sais, tu en penses quoi ? Alice, est-ce que tu as des lectures à nous conseiller ?» Mais parce que bien sûr que j'ai les sources, et c'est quand même ça la base du métier, c'est que j'ai des bonnes infos.
Non mais vous auriez été formidable en interviewant des lesbiennes candidates à la PMA, ça j'en suis sûr, mais par exemple, vous auriez pu interviewer des militants de la Manif pour tous ?
Mais absolument.
Enfin, du mariage, pardon. Du mariage pour tous. Excusez-moi.
Du mariage ou de la manif. Enfin, les deux, moi, je pense que les deux.
De la manif. Enfin, des anti-PMA.
Bon, si la Ludovine de la Rochère ou Frigide Bargeot, oui. C'est pas que j'aurais pu, c'est que je l'ai fait. J'ai passé 2 heures avec Frigide Bargeot. J'aurais adoré qu'on me demande de le faire pour 20 minutes. Je l'ai fait à part. Ça n'a pas été publié. D'ailleurs, j'avais proposé ce sujet-là à des gens. Et c'était passionnant. Parce qu'évidemment que la question, elle est complètement différente. C'est-à-dire que Frigide Bargeot ou Ludivine de la Rochère, elles ne vont pas réagir de la même manière à moi, journaliste, lesbienne et militante. Et c'est ça qui est passionnant. Ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas que moi qui interviewe Frigide Bargeot. Il faut d'autres gens aussi qui l'interviewent. Il faut d'autres personnes qui interviewent ces personnes-là. Mais on a besoin d'une diversité beaucoup plus grande de nos corps de journalistes, de nos vécus de journalistes, parce que c'est ce que je raconte aussi de Farah Ishidea, qui m'explique, qui est responsable de tout programme journaliste à la Fondation Ford aux États-Unis, qui dit qu'évidemment qu'elle, en tant que journaliste noire, quand elle se rend dans un congrès républicain, elle ne revient pas avec les mêmes propos qu'une journaliste blanche, que ça change les réactions. Donc oui, il faut qu'on ait différentes personnes. En revanche, il ne faudrait pas que je sois la seule à le faire, mais que je sois carrément interdite de le faire. Je pense qu'on se prive de tout un pan de la réalité et du coup qu'on fait mal le boulot, en fait.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alice Coffin, vous avez dit pendant cette émission que votre livre était performatif, c'est-à-dire que votre livre était en lui-même un geste qui pouvait faire advenir ce qu'il énonce, si c'est bien comme ça, je le comprends. Et en effet, moi, c'est un livre qui m'a énormément fait penser à un autre très grand livre performatif qui est King Kong, théorie de Virginie Despentes. Je trouve énormément de points communs dans le geste et dans la démarche. Et évidemment, on observera avec beaucoup de curiosité le destin de votre livre.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et faites attention à vous, comme on dit par les temps qui courent. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine, tout le monde.